Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te louons de nous permettre dans cette matinée de méditer encore ta parole dans ce cadre merveilleux, dans la paix de cette nature. Nous te demandons vraiment d'apaiser nos cœurs, mais aussi de les ouvrir pour recevoir l'abondance de tes grâces. Car tu veux mettre en chacun de nous la plénitude de tes bénédictions. Et tu voudrais que, saisissant notre vocation céleste, nous sachions déjà maintenant que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans ces lieux célestes. Accorde-nous la grâce d'y entrer et que le ciel, ce matin, ne soit pas fermé au-dessus de nos têtes, mais qu'il s'ouvre et que, comme le dit Paul, nous puissions te voir. Alors que j'étais en prière, il m'arriva de le voir. Efface toute autre image. Concentre nos regards sur Jésus et que nous puissions le contempler afin de pouvoir lui ressembler dans un tel monde qui voudrait te connaître. Amen. Nous sommes donc en ce lundi 20 juillet. Poursuivons notre étude qui donc est Dieu, et pour être éclairés, nous plongeons dans la méditation de ce livre du Cantique des Cantiques. Et ce matin, nous avons proposé à votre méditation les versets 1 à 7 du chapitre 2. Dans ma tour, en prière, dans la nuit, je voulais croire éperdument qu'à l'école de Jésus et des règles qu'il nous a apprises et que je vous ai rappelées hier encore, vous commencez à voir autre chose dans le Cantique des Cantiques qu'un poème exaltant l'amour éros entre l'homme et la femme, ou simplement, comme certains le pensent, entre deux amants. Vous connaissez le sens du mot eros, ce mot grec, d'où vient érotique. Eros, l'ensemble des tendances sexuelles et des désirs qui en résultent. Nous voulons croire que vous avez dépassé cela. Et je voulais croire encore qu'ayant toujours en mémoire les règles que le Seigneur nous a enseignées, vous comprenez aussi que cette cantate de l'amour va plus loin que l'amour humain, qui est un précieux don du Créateur, auteur béni du mariage et des liens qui existent de par Dieu entre un homme et une femme que Dieu a unis par ses liens sacrés et dont Jésus nous dit qu'ils sont indissolubles. Matthieu 19, verset 6, lors même que Moïse a permis à cause de la dureté de cœur des Israélites le divorce. Certes, le Cantique des Cantiques est bien un poème nuptial, mais il s'agit de savoir qui l'on marie et avec qui. Nous avons vu le mariage d'Isaac avec Rebecca, voulu de Dieu. Voyez-vous, dépourvu du Saint-Esprit, projecteur, en fait tourner ce merveilleux épithalame en un vaudeville, c'est-à-dire une comédie légère, fondée sur l'intrigue et le quiproquo. Notre prière était que tous, vous ayez pu commencer à discerner dans ce livre, quel amour, l'amour agapé, d'un autre mot grec, qui est l'amour de Dieu, cet amour dont parle l'apôtre Paul, dans quel chapitre de quel épître? Chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Alors, si vous avez saisi cela, vous découvrez, comme l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous le fait connaître, que le mariage a pour vocation de signifier l'union conjugale du Messie avec Israël, d'une part, du Christ avec l'Église, et plus particulièrement du Seigneur et de l'âme humaine rachetée par le Fils unique de Dieu, et qu'il s'est fiancé en vue des noces qui auront lieu dans la gloire. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, que vous le sachiez ou que vous l'ignoriez, si vous vous êtes réclamé du Seigneur, vous devez vous considérer comme fiancé au Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul nous l'enseigne ainsi, et désormais, depuis cette alliance qui date de notre conversion au Seigneur, nous lui appartenons, nous sommes les siens, et il a tous les droits sur nos cœurs. Dans le monde juif, une fiancée était déjà tellement à son fiancé qu'il fallait pour rompre une lettre semblable un peu à la lettre de divorce. Et dans le temps des fiançailles, avant qu'ils fussent ensemble, et sans qu'ils aient eu de relation sexuelle, la jeune fille vierge pouvait appeler son fiancé son mari. Déjà. Et le fiancé pouvait appeler sa fiancée son épouse. Et pourtant, il vivait dans la chasteté, cette épreuve qui leur donnait une garantie de leur fidélité après le mariage. Parce que c'est cela, cette discipline que l'on s'impose et qui est simplement une preuve que l'on aimera celle qui nous est donné par Dieu, ou celui qui nous est donné par Dieu, d'un amour fidèle et véritable qui durera dans les bons et dans les mauvais jours. Donc, quand le monde vous sollicite, vous pouvez dire un seul mot, non. Parce que vous avez dit, comme Marie, votre oui au Seigneur. Le cantique des cantiques s'inscrit donc dans la ligne du prophète Osée que je vous invite à lire et qui compare les relations de l'Éternel et de son peuple Israël à celles d'un époux et d'une épouse. Il en est de même dans plusieurs passages du prophète Jérémie et d'Ézéchiel, en particulier dans ce chapitre 16 que nous avons lu hier soir, et aussi dans plusieurs passages du livre d'Ésaïe, dans la seconde partie, qui permet de donner un sens vraiment normal et homogène à toutes les parties du cantique des cantiques. Ce ne sont pas des matériaux hétéroclites qui auraient été réunis ensemble, plusieurs chants, comme certains ont cru le voir, mais il y a une unité merveilleuse. Et quand vous lisez le cantique des cantiques, à la lumière d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et d'Osée en particulier, vous voyez une unité remarquable. Incontestablement, nous trouvons donc dans ce livre le thème prophétique des épouvailles du Seigneur avec son peuple Israël. C'est ce que les rabbins d'Israël ont toujours vu, mais aussi avec l'Église. C'est ce que les pères de l'Église ont constaté eux aussi, et tous les hommes de Dieu qui ont été en amour avec le Seigneur. Et quand je dis hommes de Dieu, je comprends aussi les femmes de Dieu au travers des âges de l'Église. Je pense en particulier à celui qu'on a appelé Saint Bernard, qui a écrit des choses magnifiques sur le cantique des cantiques, à Saint Jean de la Croix, qui était une de mes lectures préférées quand j'avais 18 ans et que je pensais mourir. Ce Saint Jean de la Croix qui, sur son lit de mort, entouré de quelques moines, arrête un moine qui voulait réciter la prière pour les morts, la prière des agonisants, puis dit « Pas ça, s'il vous plaît. Lisez-moi le cantique des cantiques. » C'est beau, hein, quand on est à la veille du grand départ, d'aimer entendre dans un ravissement déjà céleste la lecture du cantique des cantiques. Et je pourrais vous citer aussi d'autres encore. Ils sont multitudes, ceux qui se sont nourris du cantique des cantiques, dans la prière, dans la méditation, la grande Thérèse d'Avila, et d'autres encore, celle de Lisieux aussi, toutes ces âmes qui ont été réchauffées par l'amour du Seigneur. Alors, frères et sœurs, n'appelez plus jamais quelqu'un qui vient de l'Église qui n'est pas la vôtre et qui serait simplement l'Église romaine, que l'on n'entende plus dire que c'était des païens, parce que les païens, vous pourriez les trouver ailleurs où vous ne pensez. Il y a eu au cours des âges des âmes qui ont brûlé d'amour pour le Seigneur comme des flambeaux, et vous devriez les envier au lieu de vous glorifier de votre si petit salut. Je vais peut-être très fort, mais nous en avons besoin, parce que nous sommes devenus, et spécialement dans ce Québec, des triomphalistes et qui méprisent les autres, alors que nous avons reçu tout un héritage depuis les apôtres, les pères de l'Église et tous ces hommes de Dieu qui, voulant servir le Seigneur, ont souffert en leur temps. Jean de la Croix, parce qu'il voulait se nourrir uniquement de la parole de Dieu, il a été enfermé par les autorités religieuses de sa propre Église dans les prisons d'Espagne. Et nous pourrions vous parler d'autres encore et avoir maintenant cette communion avec l'Église universelle. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent dans tous les temps et dans tous les âges. Et mon âme se sent unie à tous les témoins de Dieu au travers de tous les âges, jusqu'aux apôtres qui ont entendu la parole du Seigneur Jésus. Et nous savons que cette parole nous a été transmise par les témoins. Une Église qui était vraiment catholique à son début, c'est-à-dire universelle, qui était vraiment apostolique dans ses débuts, c'est-à-dire qui suivait l'enseignement des apôtres et qui ensuite, hélas, est devenue romaine et s'est corrompue. Mais du sein de cette église romaine, Dieu a suscité des hommes qui étaient catholiques, mais qui se sont levés pour protester, pour demander une réforme, un retour aux vérités premières. Et il y a eu ainsi la réformation, il y a eu des réveils. Et ce que nous constatons, c'est que même ces hommes de réveil se sont nourris ce que leur père avait pu trouver et qui étaient des vérités centrales sur la personne de Jésus. Alors, apprenez à ne jamais cracher dans le puits où vous avez bu. Et souvenez-vous que la source, c'est le cœur de Dieu lui-même. Je l'ai dit incontestablement, et je le répète, nous trouvons dans ce livre le thème prophétique des épousailles du Seigneur avec son peuple Israël, avec l'Église, et finalement avec l'humanité tout entière. Car il y a dans le Cantique des Cantiques des vérités aux dimensions cosmiques. Situé au milieu de la Bible, on peut dire que le Cantique des Cantiques soutient à son altitude la grande image fondamentale qui va du livre de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse, lorsque l'humanité dans l'état éternel sera devenue quoi ? L'épouse de qui ? De Dieu. Il n'est plus question de rien d'autre. Dieu habitera avec les hommes. Et les hommes seront son peuple et Dieu sera leur Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Alors vous comprenez que l'on n'en a jamais fini avec un tel livre et qui se situe donc au centre de la Bible. Et savez-vous, là encore je vais vous scandaliser, et vous allez dire, ce qu'on nous avait dit était bien juste. Il n'y avait pas de fumée sans feu. Savez-vous que Jean-Paul II, vous savez ce qu'il est ? Eh bien lui-même, quand il s'est adressé aux religieuses de France, le 31 mai 1980, leur a déclaré ceci. Votre itinéraire personnel doit être comme une réédition originale du célèbre poème, le Cantique des Cantiques. Pour parler ainsi, il faut donc que lui aussi s'en nourrisse. Ce n'est pas à moi de juger Jean-Paul II. Il sera jugé par le Seigneur, selon les prétentions qu'il a pu avoir, les charges qu'il a reçues. Ne vous mêlez pas de juger ni les prêtres ni le pape, jugez-vous vous-même. Parce que c'est de cela qui sera question. Et comme je l'ai dit souvent, dans le ciel on aura trois surprises. Vous le savez, hein? La surprise de ne pas y trouver ce que nous y avions mis. La surprise d'y trouver ce que nous avions mis en enfer. Et puis, la troisième surprise, celle d'y être nous-mêmes. Car quand nous connaîtrons comme nous avons été connus, on se dira, mais si j'y suis, c'est par grâce. Croyez-le bien. Alors, ça vous libère de tout cet esprit sectaire, de toutes ces étroitesses, de tous ces jugements qui divise la chrétienté et tout en maintenant la vérité, vous marchez dans un chemin étroit pour vos pieds, mais avec un cœur large, ouvert à tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela qui doit nous rester quand nous sommes à l'école de Jésus. Mais voyez-vous, tout au cours des âges, ceux qui ont fait leur délice du cantique des cantiques ont mis en garde des âmes qui aborderaient cette lecture avec un esprit vulgaire. Comme le dit Paul, c'est une sagesse prêchée au parfait. Alors vous devez vous dire, alors cher ami, vous nous avez pris pour des parfaits pour proposer un thème pareil en 1986 au camp Mahanaïm. Eh bien, je veux le croire, oui. Même si vous ne sentez pas votre perfection, eh bien, je veux croire que le Seigneur déjà vous considère comme des parfaits. Parce que vous allez vous laisser façonner par lui. Vous allez vous abandonner entre ses mains et il fera de vous des parfaits. Par la lecture de la parole, vous serez convaincu, vous serez enseigné, vous serez corrigé pour être rendu parfait et accompli, pour accomplir d'une manière toute nouvelle les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. En Israël, voyez-vous, on ne permettait pas cette lecture du Cantique des Cantiques avant l'âge de 30 ans. Alors, n'essayez pas de gravir cette montagne qu'est le Cantique des Cantiques. Souvenez-vous de la parole de l'Éternel à Moïse pour empêcher le peuple de vouloir monter sur la montagne du Sinaï et même de la toucher. Si vous y allez d'une façon profane, vous mourrez. Et le Cantique des Cantiques sera pour vous une odeur de mort. Mais si votre cœur est purifié, eh bien vous vibrez. Et le Cantique des Cantiques aura pour vous une odeur de vie. Et vous serez pénétré par son parfum. Et que dire? Eh bien, Dieu, et c'est cela qui me bouleverse, j'étais dans l'adoration cette nuit, dans son désir de toucher le cœur de l'homme, Dieu n'a pas hésité, en effet, à lui parler le langage le plus accessible à sa sensibilité. Il s'est abaissé jusqu'au langage de notre faiblesse. Et cela fait partie de l'anéantissement de celui qui était en forme de Dieu et qui a consenti, selon Philippiens 2, à l'incarnation. Il a pris un corps. Il s'est engagé dans des mots et dans nos images charnelles. Parce qu'il voulait être proche de nous, non plus un Dieu lointain, mais un Dieu proche, qui a des mains qui nous touchent, qui a des regards qui nous rencontrent, qui a une bouche qui nous parle, qui a des lèvres et qui nous donne l'expression de sa tendresse maternelle. Ce qui m'a fait souvent dire, et je n'ai pas peur de me répéter, que notre Dieu est un père au cœur de mère. Qui est notre Dieu? Le connaissez-vous comme ce père que l'on peut appeler en quelque sorte dans une intimité totale, papa, Abba, père, c'est papa. Voilà notre Dieu, mais son cœur est celui d'une mère, comme quelqu'un que sa mère console. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés. Oui, il est allé jusqu'à employer le langage de notre amour grossier. Et s'abaissant en parole, Il nous élève en compréhension et nous apprend avec quelle force nous devons brûler de l'amour divin. Est-ce que vos cœurs ne commencent pas un peu à se réchauffer? Non pas à cause de mes paroles, mais parce que vous-même, vous prenez goût à lire ces écritures. Encore une fois, je le répète, le cantique des cantiques nous fait retrouver et parcourir jusqu'au bout ce que nous appellerons l'itinéraire de l'amour, un amour très saint. Mais pour entrer dans ce livre, il faut vraiment avoir revêtu la robe nuptiale. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 12, verset 12, dans sa parabole des noces. Parce que si vous n'avez pas la robe nuptiale, on dira « Comment es-tu entré ici ?» Et vous serez jeté dehors. Avez-vous reçu la robe nuptiale? Êtes-vous vraiment au Seigneur, la possession du Seigneur? Le Seigneur maîtrise-t-il aussi vos sens? Avez-vous accepté sa domination dans votre vie et vivez-vous dans sa dépendance? Avez-vous la robe nuptiale? Il faut avoir aussi, je l'ai dit et je souligne, chapitre 14 de l'Apocalypse, pour pouvoir chanter un tel cantique, il faut avoir les caractères de ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent, qui ne se souillent pas avec les femmes et qui sont vierges, même s'ils ne l'ont pas été une fois nés de nouveau, le Seigneur vous redonne cette virginité. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ils ont été achetés d'entre les hommes. Et vous connaissez le prix de votre rachat, le sang de Jésus. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. C'est donc de la parole de Dieu qu'il s'agit. Et qui nous rompra ce matin le pain de la parole? Qui rompait le pain parmi les disciples? Jésus lui-même. C'est le Seigneur. Et c'est quand il a rompu le pain que les disciples l'ont reconnu. Si vous prenez Jésus comme clé du cantique des cantiques, eh bien, vous le verrez rompre le pain et vous donner cette nourriture cachée, cette manne cachée que le monde ne connaît pas. Alors, dans les versets 1 à 7 du chapitre 2, je vous le demande maintenant, vous aviez peur de ne pas pouvoir parler. Je vous laisse la parole. Qu'avez-vous reconnu? Quel texte vous a interpellé personnellement? Et dites-nous pourquoi. La parole est à vous. Nous vous demandons de parler fort et distinctement, qu'il n'y ait pas que moi qui use ma voix. Oui.
Verset 2. Moi, j'y ai dit que le Seigneur me confirmait là-dedans que pour les gens qui sont chrétiens, sont célibataires, que le Seigneur voulait qu'on se marie avec quelqu'un qui était resté ici.
C'est ce que tu as vu. Mais c'est très bien. Et garde cette pensée. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Eh bien, un lys ne va pas épouser une épine. C'est bien, oui, oui. C'est un des 70 sens. Souvenez-vous de cela. Oui. Oui, oui.
C'est que, madame, juste sa présence, même si on le sent près de nous, le cœur disait un peu plus, on y prend plaisir à ça, mais on s'assoit aussi comme un petit qui est très agité. Dans le sens que, tant qu'on le sent, madame, qui nous interfère, on va s'asseoir, on arrête. Je veux dire, mettons, on a d'autres préoccupations, on va s'arrêter, puis on va se mettre à son écoute. C'est ça que je vois là-dessus, c'est que j'ai pris plaisir à son nom. C'est aussi que c'est comme un radar, à un moment donné, que je déteste cette ombre-là.
Ouais.
Puis ça m'attire. Puis je suis porté justement à l'auditer, à vouloir maximiser, disons, ce plaisir à être avec lui. Puis ça nous corrige, ça nous enseigne, ça nous dirige.
Comme c'est beau, tu vois ce que le Seigneur t'a montré. Et cela aussi, tu t'en souviendras toujours. Être sensible à sa présence, on s'asseye à son nom, il est là. Alors maintenant, je veux t'entendre.
C'est comme un disciple, c'est à côté de son main, c'est comme Marie, puis celle qui marche juste pour cela.
Oui.
Et l'une qui a s'est tapé à ses pieds, l'autre a posé à l'autre à terre. Puis Jésus a dit, t'as pris la bonne
place.
C'est qu'à un moment donné, elle a décidé d'être à son écoute pour Jésus,
ouais.
D'être avec lui. Être présent avec elle. Puis c'est ça, je pense, c'est difficile aussi. S'arrêter, puis comme c'est mon pasteur, je m'arrive demain.
Et tu vois que ce n'est pas du temps perdu. Et puis même si Marthe n'a pas compris sa sœur, je pense qu'après, quand le Seigneur est parti, parce que si les deux avaient été au service, le Seigneur n'aurait rien pu dire, tandis que Marie, étant assise aux pieds du Seigneur, a pu raconter après à Marthe, tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et Marthe a dû bénir Marie. Elle lui demandait pardon d'avoir été énervée et de l'avoir jugée, pensant qu'elle perdait du temps. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Verset 3.
Comme le premier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les filles.
Comme le premier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les filles. Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit?
Ben, moi, le premier, ça représente beaucoup de fruits. Et disons que, si on attend, je passe du temps avec le Seigneur.
Plus fort.
Si je passe beaucoup de temps avec le Seigneur, ben, lui a déjà tous les fruits qu'il veut nous donner, comme je pense à les fruits de l'esprit.
Oui.
Et c'est ça que le pommier.
Pour toi, le pommier, c'est le Seigneur qui nous donne le fruit de l'esprit. Et si nous passons du temps sous l'ombre du pommier, nous avons une nourriture. Et nous portons des fruits. Merci. Oui?
Le verset 2 disait, comme le lys entre les épines, ça nous disait, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde.
Oui, c'est vrai aussi. Tu vois, c'est un des 70 ans. Comme, vous voyez, il ne faut pas opposer les pensées, il faut les réunir. Alors, ça fait un merveilleux bouquet. Comprenez-vous? Parce que tout est complémentaire. Et alors, il y a plusieurs facettes. Oui, Ed.
Quand on parle de son ombre, souvent nous voulons être dans la lumière, comme Billy Graham, on veut être de l'avant. Et il prétend aussi des gens qui sont en arrière pour faire enregistrer les cassettes, pour nettoyer le plancher. Ça prend toutes sortes de gens. Et surtout être à l'ombre quand la grande lumière est là, Jésus.
Exactement, oui. encore un 70e sens. Hein. Parce que vous pouvez méditer sur l'ombre à travers toute la Bible, n'est-ce pas? Ce que c'est que l'ombre, être à son ombre, ou être dans son ombre. Et ce qu'elle souligne, c'est très vrai. Ceux qui, par exemple maintenant, ils sont à l'ombre de la cuisine, quoi, à la grande chaleur, hein, mais ils travaillent. Je sais que Muriel aimerait bien être avec nous, mais elle est privée de cela. Mais le Seigneur la bénira. Et tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que vous puissiez jouir le plus possible des choses spirituelles, eh bien, passeront bien avant moi dans le ciel. Seront cités avant moi. C'est cela qu'on doit toujours penser. Je me souviens, le professeur Karl Barth, le grand théologien balois qui a été persécuté par Hitler, nous disait un jour que, aux yeux du Seigneur, celui qui balayait l'église, enfin la salle, avait plus de valeur que le pasteur dans la chair qui prêchait. Parce que s'il le faisait vraiment pour le Seigneur, eh bien, ça c'était un acte que le Seigneur enregistrait. Un verre d'eau donné au nom du Seigneur ne perd pas sa récompense. Qu'est-ce que c'est qu'un verre d'eau? On n'en parle pas. Mais le Seigneur, justement, voit les petites choses. Et ceux qui, peut-être, sur un lit de souffrance ou infirmes, mais ont à cœur de prier pour des serviteurs de Dieu qui sont mis en avant parce qu'ils ont un ministère, eh bien, s'ils ont été fidèles, s'ils ont été gardés de chute, s'ils ont pu poursuivre leur témoignage, qui vous dit que ce n'est pas à cause des prières ardentes de ces femmes qui ont porté ces hommes de Dieu afin qu'ils soient gardés et préservés de toute chute. Alors le Seigneur, après, dans la gloire, manifestera toutes choses et ces êtres-là qu'on n'a pas connus sur la terre seront reconnus dans le ciel et nous serons les premiers à applaudir la manière dont le Seigneur rétribuera les siens et mettra en lumière les choses cachées. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors n'essayons pas de nous montrer, parce que toutes les œuvres que vous faites en vous montrant, il n'en sera pas question dans le ciel. Là où la chair se montre, le Seigneur a ça en abomination. Un autre. Oui.
Papa, si vous, soutenez-moi avec ce genre de raison. Je ne peux pas penser dans le temps d'Abraham que les gens sont venus le visiter. Il a demandé à son époux de préparer les pains et gâteaux. Ça me fait penser à l'amour du Seigneur que nous recevons. Si on continue dans le verset, car je suis malade d'amour, sa main gauche est sur ma tête et sa droite m'embrasse. Quoi plus qu'on pourrait voir de l'amour qui est manifesté.
C'est vrai, hein? Et cette maladie d'amour, hein, c'est la seule dont on ne voudrait pas guérir. C'est vrai?
Êtes-vous guéri?
Non. Heureusement. Diane.
Seulement le mot « lit » pour faire penser au passage de Matthieu, chapitre 6, qui est un des passages pour mon préféré, mais un passage qui m'a toujours fait du bien. Matthieu, chapitre 6, dit « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, considérez comment croire que le lit vêtant. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme une idée. » C'est toujours été un passage, mais ça m'a toujours fait du bien. Quand j'ai vu le mot lit, ça m'a fait tout de suite penser à ce passage de
Matthieu. C'est merveilleux, Diane. Tu vois, le cantique des cantiques nous amène à l'évangile. Et celui qui a parlé dans l'évangile, c'est le bien-aimé qui parlait dans le cantique des cantiques. Et qui est-ce qui a fait le lit? Vous savez ce que veut dire en français enfin traduit de l'hébreu, le lys. C'est quel nom? Suzanne. Shoshana. Suzanne. Voilà un lys. Voilà un beau nom. Et il y avait une Suzanne dans les femmes qui suivaient le Seigneur, n'est-ce pas? Qui assistaient le Seigneur de leur bien. Il y avait Suzanne, il y avait Jeanne, et puis il y avait Marie, Madeleine. Elles avaient été au bénéfice des soins du Seigneur, et elles vivaient désormais pour le Seigneur. Et de Galilée, elles l'ont suivi partout, et vous les retrouvez où? À Jérusalem, près de la croix. Voilà des femmes de Dieu. Les vraies femmes libérées qui suivent le Seigneur où qu'il aille. Quelqu'un d'autre? Je sais que plus vous avancerez, plus vous aurez de liberté et plus vous pourrez parler de ce que le Seigneur vous a montré. Si personne ne parle, eh bien, comme le temps passe et que je dois me contrôler moi aussi, nous allons continuer et je dirai encore que nous avons choisi le livre du Cantique des Cantiques parce que nous voulions le lire comme étant l'histoire de l'âme qui est unie au Christ. C'est un livre qui nous donne les expériences progressives du racheté sur le chemin de la vie avec Dieu. Et vous allez reconnaître des moments de votre vie. Ces touches de grâce, ces moments où le Seigneur est là si proche, et puis d'autres où, comme la gazelle ou les biches des champs, il disparaît. J'ai vu cela au Liban, ça m'avait frappé tout à coup. Voyez une gazelle, voyez une petite biche, et puis elle disparaît en un instant, hein, mais elle était là. Oh, que c'est beau la parole. Je résume encore ce que nous avons vu. Pour que tout cela entre en vous. Dans le chapitre premier, nous avons vu une âme rachetée qui a soif de Dieu. Sa chair languit après Dieu, qui me baise des baisers de sa bouche. Vous pourriez lire le psaume 42, le psaume 63, le psaume 84, où vous voyez ses désirs. Les baisers de sa bouche, où l'on parle de ses amours, de sa tendresse. Son nom qui nous devient si cher, qui est un parfum. Le désir de le suivre. Tire-moi, nous courons après toi. Ce désir que l'on a, maintenant qu'on connaît le Seigneur, de courir droit au but, oubliant le passé, et puis cette entrée dans les chambres du roi, où nous avons une intimité plus grande avec le Seigneur, où nous savons ce que c'est que d'entrer dans notre chambre, fermer la porte sur soi, et de parler seul à seul avec notre Père qui est dans les cieux, qui connaît mieux que personne nos besoins et qui peut nous répondre sans intermédiaire. Et là, dans ces chambres, on apprend à se connaître. Alors, on ne se fait plus d'illusions sur nous-mêmes et c'est la deuxième partie que nous avons vue, la découverte de notre noirceur depuis notre conversion. Plus j'avance, plus je me vois noir, mais plus je vois la grâce lumineuse. Et je sais que je suis agréable, malgré ce que je suis par nature, mais j'ai une nouvelle nature, et cette nouvelle nature, c'est lui qui me l'a donnée. Alors, je sais qu'en Jésus, et en Jésus seul, je suis agréable. Et évidemment, ce changement, cette transformation est si visible que cela commence d'amener des complications, des incompréhensions avec les fils de notre mère. Je ne vais pas vous redire tout ce que nous avons pu ébaucher, vous travaillerez vous-même. On avait des projets pour nous, et puis voilà que notre conversion change complètement. Je pense à mon cher beau-père, le père bien-aimé de ma femme chérie. Eh bien oui, son père qui était athée, il avait à Berlin des pensées pour son fils. Et voilà que son fils, élevé dans l'athéisme, découvre une Bible à 18 ans, si je ne m'abuse, se convertit à l'université de Berlin et se donne au Seigneur et à la vocation de missionnaire pour partir en Chine. Il est chassé au fond de la maison, il perd sa famille et il doit aller seul, mais il n'est pas seul. Voilà des exemples. C'est pas seulement du temps d'Abraham, c'est pas seulement du temps des patriarches, c'est encore aujourd'hui, dans notre 20e siècle, que ces choses ont lieu. On avait des projets pour nous, ça mène peut-être un conflit même avec un père qu'on a aimé, qu'on respecte, mais on acceptera cette souffrance. Et puis alors ce désir et qui nous prend de trouver quand même le troupeau du berger, d'autres âmes avec lesquelles nous pourrons nous rassembler, cette pensée de l'Église, de la communauté, celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît, il est ennemi de toute justice, dit les Proverbes, on ne reste pas seul, on cherche des âmes avec lesquelles nous puissions avoir de la communion, et si nous ne savons pas où sont nos frères, eh bien, sortons sur les traces du troupeau. Vous avez à revoir tout cela parce que nous n'avons fait que survoler ces grandes vérités. Puis, nous avons vu que si nous connaissons le lieu où le Seigneur rassemble ses brebis dans de verts pâturages, où il les conduit à des eaux paisibles, où il nous donne le repos de midi, eh bien, nous voyons aussi que comment le Seigneur nous voit, parce que nous avons à combattre, et nous avons eu cette belle image de la jument attelée au char du Pharaon, comment le Seigneur voit déjà la force qui est dans une âme qui veut le suivre, qui entre dans le combat contre les puissances spirituelles de méchanceté, et ce qu'il voit de bien dans l'âme régénérée, mais aussi les promesses qu'il fait pour l'aider, ce qu'il, comment il veut l'orner de son or à lui, de ses ornements à lui, non pas des ornements que nous aurions fabriqués, mais de ses ornements à lui. Et c'est quelque chose de merveilleux, cet or de la justice divine qui va nous couvrir de plus en plus, avec ces paillettes d'argent qui nous parlent de notre rachat, de notre rédemption, et nous continuons. Alors, nous arrivons à la table du roi. Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis, ma coupe déborde. Oui, c'est le culte. On est à la table du Seigneur. Et alors, à cette table du Seigneur, notre nard devrait exhaler son parfum dans l'humilité que signifie le nard, mais qui est d'un grand prix devant le Seigneur. nous devrions pouvoir répandre ce parfum devant lui. C'est ce qu'il attend. Il est là. Oh, que nos cultes soient complètement renouvelés. Mais je vous le demande, de quelle lecture nourrissez-vous vos pensées? Vous dites que le livre des cantiques, la Bible, c'est un livre difficile. Mais si vous nourrissez vos pensées de tous les romans du siècle, ces romans qui tous tirent leurs racines dans le péché, eh bien, comment voulez-vous faire des progrès dans la vie spirituelle? Il n'y a pas de miracle. Si vos yeux sont toujours fixés sur les étranges lucarnes, c'est-à-dire sur la télévision, vous êtes remplis d'images souvent pornographiques. Et alors on comprend que quand vous lisez le Cantique des Cantiques, vous vous retrouvez avec tous ceux qui font les programmes de télévision qui ne sont pas que des émissions religieuses. Quoique tous les chrétiens justifient leur télévision par les émissions religieuses. Bande de menteurs que nous sommes, devant le Dieu trois fois saint. J'ai rien contre la télévision en elle-même, mais quel emploi en faisons-nous? Un jour, la télévision sera contrôlée par le Seigneur lui-même. Et alors, ce sera un moyen extraordinaire dans son règne. Mais quand nous pensons que la plupart des metteurs en scène sont ou homosexuels, mais enfin, ça devient normal, hein, ou autres, eh bien, mes amis, on en est navré. Et toutes ces idoles, toutes ces hommes, toutes ces femmes dont on fait des vedettes et qui sont là devant nos yeux, qui nous influencent dans nos pensées, que le Seigneur nous garde. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à des miracles dans un culte. Ce que vous devez avoir entre vos seins, sur votre cœur, c'est ce sachet de myrrhe. Cette myrrhe qui nous parle des souffrances du Seigneur, de sa mort. Alors, tout absorbé dans cette contemplation de ce que sa mort nous a apporté, car à la table du Seigneur, nous annonçons sa mort. Nous annonçons sa mort, nous nous absorbons dans tout ce que cette mort nous a apporté, la délivrance du jugement au sujet de nos péchés. Nous sommes passés de la mort à la vie, mais nous ne venons pas en jugement. Et puis, la possibilité de mourir avec lui dans sa mort, je suis mort, et de ressusciter en lui. La possibilité de maintenir la chair dans la mort par la puissance du Saint-Esprit, cette chair qui voudrait toujours se manifester et qui ne s'améliore pas. C'est dans la mort du Christ que la loi a été satisfaite. Et maintenant, je suis mort aussi à la loi. Je suis mort au monde. Et puis, dans sa mort, il m'a délivré de la crainte de la mort. Et c'est encore dans sa mort que je trouve l'unité des enfants de Dieu. Alors, tout absorbé, ayant ce sachet de myrrhe, mais reprenez le chapitre 3 d'Ésaïe, et vous y verrez des femmes qui avaient aussi des petits sachets de senteurs, des boîtes de senteurs. Mais pourquoi? Pour attirer les hommes, les gens du monde. Regardez les femmes qui vont à petits pas, avec tout leur décor. Alors, mes amis, c'est pourquoi qu'on se met tout cela? Pour plaire au Seigneur? J'entends encore Karl Barth qui disait « Pour plaire au Seigneur » avec son accent suisse. Ah, mes amis, Et tout le temps que l'on perd à se refaire la façade, en France, on dit ravaler la façade. On ravale la façade des maisons. Maintenant, on se ravale la façade. Que le Seigneur nous parle, c'est du pratique, mes amis. On n'est pas en ciel et terre. On est sur la terre. Mais, comme nous l'avons dit souvent, la tête sur les épaules, les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel. Pour marcher tout imprégné de ce parfum du Seigneur. Et alors, le Seigneur est tellement heureux de ce moment de louange, de culte, qu'il peut dire ce qu'il pense à cette bien-aimée qui a dans sa main un témoignage visible, la grappe de henné, et puis qui est aussi un parfum, des fleurs merveilleuses qu'on trouve dans les vignes d'Engedi, mais en même temps, cette vie intérieure. Alors, il lui dit, oh, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Alors, vous allez méditer sur la colombe, vous l'avez fait, vous le ferez encore, et puis, ça arrache à la bien-aimée aussi ce qu'elle ressent, que tu es beau, mon bien-aimé. Elle l'appelle pour la première fois, mon bien-aimé. Cela reviendra 18 fois dans le Cantique des Cantiques. Tu es beau et tu es agréable, les deux ensemble. Et puis tout à coup, elle parle de notre lit. Ce lit verdoyant, celui de détente, c'est notre lit. Elle se repose avec le bien-aimé. C'est vraiment l'union. Et puis quand elle parle des solives et quand elle parle des lambris, elle mentionne les plus beaux arbres d'Israël, les cèdres et les cyprès. Tout cadre, tout est en harmonie avec la beauté de leur union. Ce sont leurs maisons. Le Seigneur est notre maison et nous sommes sa maison. Alors maintenant, brièvement, je suis le Narcisse de Saron, le Lys des Vallées. Vous voyez qu'il y a progrès. Avant, elle disait, je suis noire. Mais maintenant, elle se préoccupe plus de ce qu'elle est, par nature. Elle dit ce qu'elle est devenue pour le Seigneur. Et, très humblement, elle se qualifie comme étant le Lys des Vallées, le Narcisse de cette belle vallée de Saron. Et, voyez-vous, ce sont des petites fleurs en Israël. Et on pense que c'est l'anémone, cette anémone rouge que l'on voit au printemps en Galilée. C'est quelque chose de merveilleux. Et l'on se dit, c'est vrai que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme un de ses lys. Et comme vous le voyez, une vie qui appartient au Seigneur, elle est comme un lys au milieu des épines. Oh, c'est une petite fleur. C'est le symbole de l'humilité. Mais à côté de ce qu'est le monde, ce sont des épines, oui. Des épines. C'est le symbole de la malédiction de la terre. Le sol produit des épines. Pour quelle raison? À cause de quel péché? Du péché d'Adam. Maudit est le sol à cause de toi. Il produira des épines et des ronces. Et ces épines, vous pouvez les voir à travers toute la Bible. Et finalement, vous les voyez où? À la couronne du Seigneur qui a pris lui-même la malédiction de la terre. Et vous voyez que le Seigneur, le bien-aimé, répond oui, comme le lys d'entre les épines. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Tel est mon ami entre les filles. Il sait faire la différence. Et alors, que va répondre la bien-aimée? Comme le pommier entre les arbres de la forêt. Bien voilà, nous sommes dans une forêt. On ne pouvait pas trouver un lieu meilleur pour méditer le cantique des cantiques. C'est vraiment champêtre. Et j'avais tellement à cœur que ce camp nous parle et nous scelle en Dieu. Et voyez-vous, elle choisit le pommier. Pourquoi? Entre les arbres de la forêt. Bien, les arbres de la forêt sont magnifiques, mais ces arbres ne nous nourrissent pas. Ils sont là pour notre vue, pour exalter aussi la grandeur, la puissance, la majesté du Créateur. Mais nous avons besoin d'être nourris. Alors, c'est un arbre fruitier. Et c'est un arbre qui, au printemps, est magnifique. Les fleurs de pommier. Le choix de la bien-aimée, c'est le pommier. Vous avez vu le printemps, au printemps, les pommiers en fleurs. C'est si beau, c'est si merveilleux. Et l'odeur de ces pommiers, l'odeur de ces fleurs, promesse de fruits pour quand? Pour l'automne. Les fleurs au printemps, les fruits en automne. Et la beauté d'une belle pomme. Parce que c'est un fruit qui nous goûte, qui est bon. Et voyez-vous, la pomme, c'est un fruit succulent. Peut-être pas trop piquant. Il y a des gens qui aiment bien avoir plutôt du piquant. Mais la pomme, c'est, je vois sa beauté, sa couleur aussi. Elle choisit le pommier, parce que elle pourra aussi s'asseoir à son ombre. Et à l'ombre, elle est à l'ombre du pommier, elle s'y trouve dans le repos, mais en même temps, elle a son fruit. Elle peut se nourrir, repos, nourriture, et son fruit est doux. À son palais. C'est une nourriture délicieuse. On trouvera plusieurs fois ce mot pomme, en tout cas quatre fois, dans le Cantique des Cantiques, et nous reviendrons sur cela. Mais pour ne pas vous fatiguer, je vous dis très brièvement les grandes lignes, et à vous de reprendre tout cela. Puis, vous voyez, quand on se laisse faire par le Seigneur, c'est pas, on n'a plus même besoin d'y demander quelque chose. J'ai demandé une chose à l'Éternel, psaume 27, et je la rechercherai. On ne demande plus qu'une chose, c'est sa présence. Pouvoir vivre dans sa présence. Et alors, une fois qu'on est dans sa présence, c'est lui qui nous introduit. Il m'a fait entrer. Ce n'est pas « je suis entré ». Il m'a fait entrer. Je me laisse guider par lui. Je me laisse conduire par lui. Si tu t'es abandonné au Seigneur, nous l'avons dit, c'est lui qui va te façonner et qui te fera entrer. Après t'avoir conduit dans la chambre nuptiale, dans la chambre de son intimité, il va te conduire au banquet. Dans la chambre du banquet, dans la chambre du festin. Parce que tu as la robe, il m'a fait entrer dans la maison du vin, dans la maison où tu pourras célébrer la joie, comme à Cana, un vin meilleur, mais celui que donne qui? Le Seigneur. Et dans la maison du festin, tu vas être nourri de mets qui conviendront à ta nouvelle nature. C'est pourquoi il y a toujours deux tables dans le Nouveau Testament. Il y a la table du Seigneur, où je nourris ma nouvelle nature, pas seulement quand je prends la scène, mais tous les jours par les mets que le Seigneur me donne, une nourriture spirituelle. Et puis, il y a la table des démons, qui est dans le monde, et où préside le prince, ce monde, Satan, qui n'a pas des cornes, une queue, et qui n'est pas rouge, comme on le montrait dans le Moyen-Âge, et qui n'a pas une fourche, mais qui est un bel homme, celui qui plaît, celui dont les regards sont des regards d'or. Il vous regarde. Il a la figure, Satan, que le monde aime. Et c'est là qu'il est le séducteur. Il se déguise en ange de lumière. Il sera aussi le serpent. Il sera aussi le lion rugissant. Mais il aime être l'ange de lumière pour vous séduire et vous faire croire que ce que le monde donne va vous satisfaire, alors que vous n'éprouverez qu'une chose, que vous allez boire à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et quand le diable vous aura usé, il vous laissera comme un citron pressé. C'est vrai ou c'est faux? Alors vous n'avez plus qu'à vous suicider. C'est un menteur et c'est un meurtrier. Tandis que le Seigneur, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et si vous voulez méditer justement sur ce qu'est cet amour agapé, relisez le chapitre 13 en particulier de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et alors là, dans la maison du festin, on est tellement plongé dans cet amour de Dieu. Cela va plus loin encore que la première expérience, dans l'intimité qui se fait de plus en plus grande, eh bien c'est comme si l'on tombe en extase, si l'on tombe dans les bras éternels. Au-dessous de moi sont les bras éternels. Alors on connaît sa main gauche sous notre tête et sa droite nous embrasse. Cela veut dire que nous sommes sur son cœur. Il nous tient dans ses bras. C'est vraiment le bon berger. Tout faible que je suis, petite brebis, j'aime à me voir dans les bras de ce berger dont nous parle Ésaïe, dont nous parle Jérémie, dont nous parle Ézéchiel, dont nous parle les psaumes, dont nous a parlé Jésus. Je suis le bon pain, le bon berger, le bon pasteur, et il s'occupe de ses brebis. Alors, on est tellement submergé que, oui, c'est une défaillance, mais quelle défaillance! Pas les défaillances comme elles se trouvent dans le monde, parce qu'on s'est enivré et qu'on roule dessous la table. Ou ailleurs encore, dans notre vomissement, mais une défaillance. C'est tellement beau, Seigneur. Et peut-être qu'on pleure de joie. Alors soutenez-moi avec des pommes, ce fruit du pommier. Soutenez-moi avec des raisins, nous en parlerons encore. Je suis malade d'amour, la seule maladie que nous devrions avoir d'une façon chronique, si j'ose dire ainsi. Alors je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, nous en parlerons. N'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Oh, que c'est beau! Maintenant qu'on est dans ses bras, maintenant qu'on se laisse aller, qu'on s'abandonne, le Seigneur ne veut pas qu'on nous réveille. Restons dans ce repos. Il n'y a rien de forcé. Nous, nous voulons toujours forcer. Nous voulons réveiller les âmes. Oh, que Dieu me garde de cela. Je ne vais pas essayer de vous réveiller. Je voudrais seulement que vous soyez dans les bras du Seigneur. Quand vous le voudrez, parce qu'il attend votre volonté, alors, vous vous lèverez. Et que ce soit sa voix qui vous fasse, vous, levée. Et non pas la mienne. Parce que si vous vous levez pour moi, c'est pas pour le Seigneur que vous vous serez levé. Alors mes amis, l'heure étant venue, nous allons vous laisser aller vous détendre et vous avez la suite pour ce soir, deuxième chapitre, versets 8 à 17. Voulez-vous qu'on continue ou en avez-vous assez? Non, je ne parle pas de maintenant, hein, mais... Nous prions. Ô Dieu baigné dans cette lumière, heureux de ton amour, sensible à tous tes bienfaits, nous voulons te demander que tu nous continues ces moments de grâce, que tu nous donnes ta force, que tu nous renouvelles les uns et les autres, donnant la grâce pour parler et la grâce pour écouter et surtout, pour qu'ensemble, nos bien-aimés qui sont ici et moi-même, nous mettions ces paroles en pratique, n'étant pas des auditeurs oublieux, mais te laissant continuer de nous façonner dans cette journée, et que l'expérience qu'Isaac avait faite avec son père Abraham, nous puissions nous aussi la faire, apprendre à obéir, pour que, à notre tour, nous soyons en bénédiction à nos enfants, si nous en avons, et si tu nous les accordes. Amen.